Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 14. La guerre et la santé de l'État. Deuxième partie. En juin 1917, le Congrès vota la loi sur l'espionnage, ratifiée ensuite par Wilson. Son intitulé pouvait laisser penser qu'il s'agissait d'une loi contre l'acte même d'espionnage, mais elle présentait également une clause qui prévoyait une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement contre toute personne qui, en temps de guerre, inciterait volontairement ou tenterait d'inciter à l'insubordination, la trahison, la mutinerie ou le refus de servir dans les forces armées et navales des États-Unis, ou qui ferait volontairement obstruction au service d'enrôlement et de recrutement américain. À moins de posséder une théorie personnelle sur la nature des gouvernements, on ne pouvait deviner quel usage il serait fait de cette loi sur l'espionnage. Une autre clause précisait que rien de tout cela ne devait être interprété de manière à limiter ou restreindre les discussions, les commentaires ou les critiques touchant l'activité politique du gouvernement. Ce double langage dissimulait en réalité un objectif unique. La loi sur l'espionnage permit de jeter en prison les Américains qui prenaient position, oralement ou par écrit, contre la guerre.
Depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerre notoire, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14.
Deux mois après le vote de cette loi, le socialiste Charles Schenck était arrêté à Philadelphie pour avoir imprimé et distribué 15 000 tracts qui dénonçaient la loi sur la conscription et la guerre. Ce tract affirmait que la loi violait le 13e amendement, contre la servitude involontaire. La conscription, disait ce tract, était un acte monstrueux, contre l'humanité perpétré dans l'intérêt des financiers de Wall Street. Schenck ajoutait, ne cédez pas à l'intimidation. Il fut inculpé, jugé et condamné à 6 mois d'emprisonnement pour infraction à la loi sur l'espionnage. Il apparaîtra que cette peine fut l'une des plus légères appliquées dans ce genre de cas. Schenck fit appel du jugement, arguant du fait que cette loi, en brimant la liberté d'expression, violait le premier amendement. Le Congrès ne fera aucune loi qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse. La décision de la Cour suprême, rédigée par le plus libéral de ses membres, Olivier Wendell Holmes, fut unanime. Résumant le contenu du tract, il déclarait qu'il était indubitablement destiné à faire obstruction à la loi sur la conscription. Le premier amendement protégeait-il Schenck? À ce sujet, Holmes affirmait « L'application la plus rigoureuse de la liberté de parole ne protégerait pourtant pas un homme qui crierait faussement au feu dans un théâtre et y causerait la panique. » Le principal dans toute situation est de savoir si les termes utilisés le sont dans des circonstances telles et sont de telle nature qu'ils créent une menace claire et effective susceptible de provoquer des désastres substantiels que le Congrès a le devoir de prévenir. L'analogie dont use Holmes est à la fois intelligente et séduisante. Rares sont ceux qui jugeraient que le principe de la liberté d'expression devrait être appliqué à un individu criant au feu dans un théâtre pour y provoquer la panique. Mais cet exemple peut-il s'appliquer aux critiques émises contre la guerre? Zacharia Sheffi, professeur à l'école de droit de Harvard, écrivit plus tard dans son Free Speech in the United States que l'analogie la plus pertinente serait celle d'un individu qui, à l'entracte, monterait sur scène pour informer qu'en cas d'incendie, les sorties de secours seraient un nombre insuffisant. Si on veut poursuivre le jeu de l'analogie, Schenck agissait plutôt comme un individu qui préviendrait honnêtement les spectateurs sur le point d'acheter leur place et d'entrer dans le théâtre que la salle de spectacle est en train de brûler. Peut-être la liberté de parole pouvait-elle être rejetée par toute personne un peu sensée lorsque son usage faisait peser une menace claire et effective sur la vie et la liberté. Après tout, la liberté d'expression entre en compétition avec d'autres droits essentiels. Mais la guerre elle-même ne menaçait-elle pas clairement et effectivement la vie, et même bien plus clairement, effectivement et dangereusement, que tous les discours critiques à son encontre? Les citoyens n'étaient-ils pas en droit de douter du bien fondé de cette guerre et de remettre en cause ces politiques dangereuses?
La guerre de jadis, que je me soucie comme d'une cerise, de celle de 70. Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite, même en colon, celle que je préfère.
900 personnes environ furent emprisonnées pour violation de la loi sur l'espionnage. Cette opposition substantielle était autant que possible dissimulée aux yeux de l'opinion publique. En revanche, le sentiment patriotique était exalté à grand renfort de fanfares militaires et de drapeaux, les projecteurs pointés sur les foules, acquérant des titres de guerre et sur l'acceptation par la majorité des Américains de l'incorporation et de la guerre. Cette acceptation ne fut pourtant acquise que par l'intimidation et par le biais d'opérations de relations publiques bien montées, grâce à la mobilisation de tous les moyens du gouvernement fédéral, soutenu par l'argent des milieux d'affaires. L'ampleur même de cette campagne pour décourager l'opposition en dit long sur la spontanéité du sentiment populaire favorable à la guerre. Avril 1917, devant les membres du Harvard Club, Theodore Roosevelt qualifiait les socialistes, l'IWW et tous ceux qui voulaient la paix de ramassis de créatures asexuées. À l'été 1917, l'American Defense Society voyait le jour. Selon le Herald de New York, plus d'une centaine d'hommes se sont engagés hier dans la patrouille américaine de sécurité sous l'égide de l'American Defense Society. Cette patrouille a pour mission de faire taire les propos séditieux qu'on entend dans nos rues. Le département à la justice parraina une American Protective League, qui comptait en juin 1917 des unités dans 60 villes et villages et rassemblait près de 100 000 membres. La presse soulignait que les responsables en étaient bien souvent les hommes les plus éminents de leur communauté, banquiers, directeurs de chemins de fer, hôteliers. Une étude menée sur cette American Protective League en décrit les méthodes. Le courrier est supposé être sacré. Pourtant, l'American Protective League fut bien souvent étrangement clairvoyante à propos des lettres rédigées par les suspects. Entrée par effraction au domicile ou sur le lieu de travail d'un individu sans mandat de perquisition est considérée d'ordinaire comme un cambriolage. Pourtant, la Ligue a fait cela des milliers de fois, sans être le moins du monde inquiétée. Cette American Protective League se targuait d'avoir révélé 3 millions de cas de trahison. Même si ces chiffres sont exagérés, l'importance et les moyens de la Ligue donnent une idée de l'ampleur de cette trahison. Les États mirent sur pied des milices de surveillance. La commission de sécurité publique du Minnesota, instaurée par la loi, ferma les bars et les salles de cinéma, répertoria les terres appartenant à des étrangers, assura la promotion des titres de guerre et mit à l'épreuve la loyauté des citoyens. Le journal de Minneapolis publia un appel de la commission demandant à tous les patriotes de se joindre à l'éradiction des activités et opinions séditieuses et anticonscriptions. La presse nationale coopéra dans une très large mesure avec le gouvernement. À l'été 1917, le New York Times fit paraître un éditorial qui rappelait qu'il était du devoir de tout bon citoyen de communiquer aux autorités concernées toute manifestation de déloyauté dont il pourrait avoir connaissance. Le comité Creel sur l'information publique affirmait que les gens devaient dénoncer au département à la justice tout homme qui se répandrait en discours pessimiste. En 1918, le ministre de la Justice se félicitait. « On peut dire sans peur de se tromper que jamais dans toute son histoire, ce pays n'aura été aussi parfaitement surveillé. » Pourquoi une telle dépense d'énergie ? Le 1er août 1917, le Herald de New York révélait que 90 des 100 premiers Américains incorporés demandaient à être exemptés. Dans le Minnesota, les gros titres du journal de Minneapolis des 6 et 7 août de la même année affirmaient que l'opposition à l'incorporation s'était étendue rapidement à tout l'État et que les conscrits donnaient de fausses adresses. En Floride, deux ouvriers agricoles noirs s'enfuirent dans les bois avec un fusil et se mutilèrent pour échapper à l'incorporation. Le sénateur de Géorgie, Thomas Hardwick, déclara que, indubitablement, des milliers d'individus refusaient que l'on applique la loi sur la conscription et de nombreux rassemblements massifs contre cette loi avaient eu lieu partout à travers l'État. Finalement, plus de 330 000 hommes échappèrent à la conscription. En Oklahoma, le Parti socialiste et l'IWW avaient été très actifs auprès des fermiers et des métayers qui formaient un syndicat de la classe ouvrière. Lors d'une réunion de ce syndicat, on projeta de détruire un pont de chemin de fer et de couper les lignes de télégraphe afin de faire cesser l'enrôlement. On envisagea également d'organiser une marche sur Washington, appelée la rébellion du maïs vert, parce qu'il était prévu d'en manger tout au long du parcours, en soutien à tous les objecteurs du pays. Avant même que le syndicat ait pu mener ses projets à terme, ses dirigeants furent arrêtés et 450 personnes se retrouvèrent au pénitencier de l'État pour rébellion. Les leaders se virent infliger de 3 à 10 ans d'emprisonnement et les autres des peines allant de 2 mois à 3 ans.
Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accès site. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non, fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, c'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. C'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Le département des postes et télécommunications se mit à refuser aux journaux qui publiaient des articles pacifistes les avantages postaux habituellement concédés à la presse. The Masses, une revue socialiste consacrée à la politique, à la littérature et aux arts, ne fut plus acheminée par la poste. À l'été 1917, elle avait publié un éditorial signé Max Eastman qui demandait entre autres choses « Pour quelles raisons particulières nous embarquez-vous, nous et nos fils, pour l'Europe ? Pour ma part, je ne reconnais pas au gouvernement le droit de m'enrôler dans une guerre à laquelle je ne crois pas. » À Los Angeles, on pouvait voir un film sur la Révolution américaine qui évoquait les atrocités commises par les Britanniques à l'égard des colons. Le film s'intitulait « L'esprit de 76 ». Le réalisateur fut poursuivi au nom de la loi sur l'espionnage, au motif que son film, selon le juge, mettait en cause la bonne foi de notre allié, la Grande-Bretagne. Il fut condamné à 10 ans d'emprisonnement. Près de 65 000 personnes se déclarèrent objecteurs de conscience et demandèrent à effectuer un service civil. Dans les bases où ils furent affectés, ils se virent souvent traités avec une brutalité proche du sadisme. Quant à ceux qui furent envoyés au pénitencier de Fort Riley, dans le Kansas, pour avoir absolument refusé de servir, ils étaient entraînés, l'un après l'autre, dans un couloir de la prison. Là, une corde de chanvre attachée à un barreau de la plus haute coursive leur était passée autour du cou et on les soulevait jusqu'à ce qu'ils fussent sur le point de s'évanouir. Pendant ce temps, le gardien les frappait aux chevilles et aux tibias. Après les avoir redescendus, on leur passait la corde sous les bras et on les ressoulevait aussitôt. Ensuite, on les aspergeait à la lance à incendie jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Les écoles et les universités décourageaient toute opposition à la guerre. Au Congrès, rares étaient les voix qui s'élevaient contre la guerre. La première femme élue à la Chambre des représentants, Janet Rankin, ne répondit pas à l'appel de son nom lors du vote pour ratifier la déclaration de guerre. L'un des plus anciens politiciens de la Chambre, belliciste acharné, se dirigea vers elle pour lui souffler à l'oreille
« Ma petite dame, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas voter. Vous représentez les femmes de ce pays. »
Au tour suivant, elle se leva à l'appel de son nom et déclara « Je suis avec mon pays, mais je ne voterai pas pour la guerre. Je vote non. » Une chanson populaire de l'époque s'intitulait « Je n'ai pas élevé mon fils pour en faire un soldat. »
Mais les chansons que l'on entendait le plus souvent s'intitulaient
« Là-bas, notre bon vieux drapeau » ou « Johnny s'en va en guerre ». En juillet 1917, au cours d'un rassemblement qui se tenait dans le Dakota du Nord, la socialiste Kate Richards O'Hare s'étonnait que l'on considérât apparemment les femmes américaines, ni plus ni moins, comme des pondeuses vouées à élever des enfants qui seraient plus tard envoyés à l'armée et transformés en engrais. Elle fut arrêtée,
jugée et condamnée à 5 ans d'emprisonnement
au pénitencier de l'État du Missouri. Emma Goldman et son compagnon anarchiste Alexander Berkman, qui avait déjà été emprisonné pendant 14 ans en Pennsylvanie, furent également condamnés pour s'être opposés à la conscription. Emma déclara au jury « Étant donné le manque de démocratie aux États-Unis, comment pouvons-nous prétendre l'apporter au reste du monde ? Une démocratie conçue dans l'asservissement militaire des masses, dans leur esclavage économique, et qui se nourrit de larmes et de sang, n'est pas une démocratie, c'est du despotisme, le fruit d'une série d'abus que le peuple, selon ce dangereux document qu'est la Déclaration d'indépendance, est en droit d'abolir. » Avec la Première Guerre mondiale, l'Angleterre devint de plus en plus un marché pour les produits américains et pour les prêts financiers à intérêt. La J.P. Morgan & Co. agissait en tant qu'agent pour les Alliés. Quand, en 1915, Wilson leva l'interdit sur les prêts bancaires destinés aux Alliés, Morgan se mit à prêter de telles sommes d'argent qu'il fit d'immenses profits personnels, tout en intéressant étroitement la finance américaine à une victoire anglaise contre l'Allemagne. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Thank you.